Je vais chanter la rédemption et le pardon qui couvre les fautes et de tout ce que le Seigneur a fait pour moi sur la croix. Alléluia. Je suis délivré. Alléluia. Revenu à la maison. Alléluia. Je suis sauvé par Jésus. Je veux chanter la grâce de Dieu qui est suffisante pour toujours. Je suis heureux et le chemin étroit me mène au but. Alléluia. Je suis délivré. Alléluia. Ramené à la maison. Alléluia. Oh mon Jésus, je te loue. Je veux chanter concernant la croix et comment est-ce qu'il mourut pour moi et tout ce qu'il a fait pour moi. Et il est le vainqueur sur toutes choses. Alléluia. Je suis sauvé, délivré. Alléluia. Ramené à la maison. Alléluia. Oh mon Jésus, je veux chanter concernant la cité céleste qui m'attend. Un jour, il nous accordera la couronne de la vie. Alléluia. Alléluia, je suis attiré vers la maison céleste où je verrai mon Jésus. Quand nous serons achevés devant le trône et nous verrons le Seigneur tous revêtus, transfigurés dans sa gloire, transformé à son image, transfiguré glorieusement, alléluia, transfiguré glorieusement, alléluia. Pour toujours à la maison, dans la gloire. Quand nous nous tiendrons devant le trône de la grâce, devant le trône, comme ce sera merveilleux. Alléluia. Transfiguré glorieusement. Alléluia. Comme ce sera merveilleux. Comme ce sera glorieux. Transfiguré glorieusement. Alléluia. Transfiguré glorieusement. Alléluia. Quand nous verrons tout ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment, nous serons pour toujours auprès de lui dans la gloire. Alléluia, transfiguré, glorieux. Alléluia. Transfiguré, alléluia. Transfiguré, alléluia. Éternellement à la maison. Merci et remercié soit le Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être, de pouvoir être ici ce soir et de pouvoir adorer en esprit et dans la vérité. Beaucoup adorent, mais ils adorent en vain. Le Seigneur dit lui-même, c'est en vain que vous m'honorez en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. À quoi est-ce qu'un culte sert? À quoi est-ce qu'une adoration sert? À quoi est-ce que ça sert de chanter et de prier si tout a été en vain? Si à la fin du parcours de notre vie, la grande déception a lieu, à quoi est-ce que alors ça a eu pour sens et objectif? Et c'est ainsi que nous comprenons les paroles de notre Seigneur toujours plus, plus profondément et mieux qu'il a prononcé dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, au verset 24. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et dans la vérité. Des gens qui sont pénétrés par l'esprit de Dieu, par les vérités de la parole de Dieu, des hommes à qui Dieu a parlé, ont alors le droit de nouveau de l'adorer et parler avec lui. Tous les autres qui ne prêtent pas l'oreille à Dieu et à sa parole, Dieu non plus ne prête pas l'oreille à leur prière. Un entretien est toujours une chose. Il n'y en a pas qu'un seul qui parle dans un entretien. On ne peut pas parler d'un entretien. Mais le mot lui-même, entretien, veut dire que pour un entretien, il y a au moins deux personnes. Si ce n'est qu'on parle, qu'on soit fou et qu'on parle seul. Mais un entretien est toujours l'un écoute l'autre. Et l'entretien que nous avons avec Dieu dans la prière et l'entretien que Dieu a avec nous par sa parole vont ensemble. Et seulement ceux à qui Dieu vraiment par sa parole a parlé, avec qui Dieu a parlé par sa parole, ce sont ceux-là seulement qui peuvent de nouveau parler avec lui. Et ils prêtent l'oreille à leur prière et les bénira. Le jugement, ce n'est pas nous qui le prononçons, ça c'est Dieu qui lui-même l'a prononcé. Mais c'est ainsi que c'est écrit, réellement dans Marc chapitre 7, verset 7, et dans d'autres écritures. Matthieu 15, verset 9, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Parce qu'ils ont fait des préceptes d'hommes, des commandements d'hommes sur les comme les préceptes. Et cette parole dans ces derniers jours m'a très touché. Si partout, les efforts qui sont faits par tous ces cultes qui sont tenus, et ces réunions qui sont tenues, et l'effort qui est fait pour subsister devant Dieu, si après tout cela, le mot « vain » en vain est écrit, en vain ont été toutes les réunions dans lesquelles les hommes ont parlé, en vain chaque réunion dans laquelle Dieu ne peut pas parler avec nous, et alors cela devient toujours plus important pour nous, ce que cela signifie que Dieu, dans cette dernière génération, a directement parlé avec nous. Par sa parole, qu'il l'a déterminé pour ce temps. La parole de Dieu n'est pas la fantaisie d'un mystique, les fantaisies. La parole de Dieu est la révélation de sa volonté et de sa parole par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, nous l'avons, dans ces jours, par la grâce de Dieu, compris et entendu. Vous savez, mes bien-aimés, on peut porter un jugement correct sur ces choses et apprendre à estimer cela quand, parfois, on est parmi des personnes qui ne peuvent pas croire ce que Dieu a dit dans notre temps et qui peut-être ne savent même pas que Dieu a parlé dans notre génération. Vous savez, j'étais deux week-ends, l'un après l'autre à Londres, le 12 et le 13, et ensuite le 18 et le 19. Et après, en Autriche, j'étais en Autriche, à Vienne, à Salzbourg et dans d'autres villes, et je suis revenu à Zurich. Mais justement, ce que j'ai vécu là-bas, le 18 à Londres, était très, très, m'a saisi très profondément. Et je crois que pour tous ceux qui étaient présents, ça a été le cas. Comment est-ce que des hommes, des évangélistes, des pasteurs, des prédicateurs, des gens avec titres et noms, avec des titres et des noms, cherchent les possibilités pour encore une fois apporter l'évangile à l'humanité? Et il était parlé de ce que le monde doit être atteint, le monde entier. Il était parlé de ce que un satellite doit être placé sur l'équateur et que par ce satellite, les programmes doivent être transmis. Je suis toujours intéressé de ce que la parole de Dieu soit prêchée. Mais si je vous dis aujourd'hui que ces programmes-là dont il était question là-bas, ni Dieu, ni quelqu'un qui est éclairé par Dieu n'est intéressé. On ne pourrait pas le croire que de tels hommes, d'un côté, parlent d'atteindre toute l'humanité avec l'Évangile, et à tout prix, toute l'humanité doit être atteinte avec l'Évangile, et d'un autre côté, les mêmes personnes veulent présenter ce programme-là, avec de la musique d'entretien et avec des informations sportives, avec toutes les choses du monde, accompagner le programme, entourer ce programme pour ainsi lui donner une belle couleur, pour attirer les gens, attirer les gens. Vous pouvez bien vous imaginer ce qui s'est passé en moi pendant les quelques heures où j'écoutais ces choses. Sinon, je suis en sueur qu'en parlant. Mais en prêchant, mais là, la sueur me coulait déjà. J'ai dû enlever la veste que je portais. Et j'ai fait qu'attendre que mon temps soit arrivé pour parler. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais Dieu a accordé sa grâce. Justement à ces hommes de la BBC de Londres et de beaucoup, que ce soit l'armée du salut, et tous étaient représentés là-bas. J'étais le dernier orateur. Dieu l'a conduit ainsi. Et à ces hommes, à ces gens, en quelques minutes, je leur ai présenté le programme. J'ai pu leur présenter le programme de Dieu. Bien-aimé, il faut être capable d'apporter la vérité humblement, sans orgueil. On n'a pas à mépriser les autres, mais rester sous eux si on veut les aider. Et je dois vous dire que Dieu a secouru, a aidé. Je crois que la lettre est arrivée aujourd'hui par la poste, ou bien hier, qu'il veut envoyer ma prédication à la radio de Trans World à Monte Carlo pour que beaucoup puissent écouter ce qui a été dit. J'ai donné le défi de comparer ce qui a été décidé là-bas dans leur réunion. De comparer cela. Est-ce que cela est en accord avec ce que les apôtres au commencement, au nom du Seigneur, avaient à prêcher? Et j'ai dû aussi mettre l'accent sur le fait que nous vivons dans le temps de la fin, nous vivons à la fin des temps, et que maintenant, il s'agit de ne pas tolérer de mélange, mais d'avoir une prédication de l'évangile claire, pure, selon le modèle apostolique. Tout le reste, nous en avons déjà assez. Et parfois, j'explose et j'élève le ton, mais toujours avec amour, et ça, c'est ce qui est merveilleux. Mes bien-aimés, ça, c'est un don de Dieu. Aucun homme ne peut se procurer cela, se donner cela. Le général de l'armée du salut et les différentes personnes avec leurs titres et leurs rangs sont venus et ont dit, frère Franck, est-ce que tu reviendras un jour à Londres? J'ai dit, Dieu voulant, en novembre. Ils m'ont donné leurs adresses. Ils sont venus pour prier, pour la prière. Et ils savaient et ils ont remarqué qu'il y a une différence entre toutes les propositions, les idées, tout ce qu'on parlait, et il y a une différence entre la directe prédication de la parole de Dieu, parce que chacun est passé pour donner des propositions, des idées pour atteindre le monde avec l'évangile. Mais bien, mes frères et sœurs, cela n'a pas poussé dans notre jardin. Nous ne nous sommes pas donné ça nous-mêmes. Ça, Dieu, par sa grâce, nous l'a accordé. C'est un don de notre Dieu dans ce temps. Et nous aussi, nous serions partis comme tous ces gens, comme tout le reste. Nous aurions marché ainsi. Mais il y a une chose que nous avons remarqué, que beaucoup cherchent. Ils cherchent et ne savent pas ce qu'ils cherchent. Mais Dieu nous a fait grâce de nous confier ce merveilleux et ce grand message du salut. Je me rappelle alors que j'étais assis en face du Bischof Ratzinger et que je lui disais certaines choses. Et alors que j'avais mentionné le nom de frère Branham, il s'est dressé, il s'est redressé et puis il a dit, mais William Branham, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. Et il a répondu, mais je le connais bien. J'ai préparé, je crois que c'était où? En Jamaïque, Jamaïque. J'ai préparé ces réunions, plusieurs années, l'une après l'autre. Il a tendu la main vers la gauche et il m'a montré son image, sa photo avec la colonne de feu. Il m'a dit, ici j'ai sa photo avec la colonne de feu sur sa tête. Et il m'a dit, frère Franck, depuis le jour de Jésus, un tel ministère comme William Branham l'avait sur terre n'a pas existé. Je voulais bien sûr lui demander, mais pourquoi est-ce que son représentant a un col de prêtre et une croix sur la poitrine? S'il dit qu'il croit au ministère de Frère Branham. Moi, je ne suis pas obligé de le faire comme ça tout de suite, je peux le faire plus tard. Vous voyez, cette question m'est venue tout à l'heure, que nous, en tant que personne, quand on devient croyant, on perd un peu le côté naturel. Nous ne sommes pas exactement ce que Dieu voulait faire de nous. Si nous pouvions être les deux normalement, de vrais enfants d'hommes et de vrais enfants de Dieu, et pas quelque chose que nous mettons artificiellement entre les deux. Et là, je devais penser à Frère Branham. Il était un homme qui avait les deux pieds sur terre, que je tenais. Il allait à la chasse, il allait à la pêche, il avait ses hobbies dans la vie terrestre. J'ai compté ses fusils, 49 fusils dans sa chambre. Et nous dirions, mais un moment s'il te plaît, mais il y a une chose que je veux vous dire. Ce grand homme de Dieu est resté normal. La plupart des croyants commencent à dérailler et se réveillent d'une sainteté et d'une justification artificielle et deviennent rien d'autre que des pharisiens. Et c'est ainsi que nous avons tout un nombre de pharisiens dans le royaume de Dieu qui sont plus pieux que tous les autres. Mais avec cela, Dieu et le royaume de Dieu ne sont pas servis. Dieu veut des vrais enfants de Dieu dans son royaume, il veut aussi avoir des citoyens sensés qui savent ce qui est convenable. Et je pense que nous, en tant que croyants réellement, de toute manière, nous devons rester tels que d'autres peuvent par nous recevoir un modèle ou bien prendre exemple sur nous aussi dans les domaines, dans les choses terrestres. Alors, ensuite, il y a eu les réunions en Autriche, aussi de nouveau quelque chose de très particulier s'est passé. La réunion à Vienne, ça je l'ai déjà mentionné, raconté, elle était très critique. La maison Albert Schweitz appartient à l'Église catholique et le pasteur qui me rencontrait là-bas m'a posé trois questions l'une après l'autre comme d'un revolver, tiré d'un revolver. La première a été, est-ce que vous appartenez au conseil œcuménique des églises, conseil communique? J'ai dit non. La deuxième question était, est-ce que vous appartenez à l'alliance évangélique? Et je lui ai dit non. Il a dit, mais est-ce que vous appartenez au moins à l'église pentecôtiste? Et je lui ai dit non. Et alors bien sûr que tout était trop tard. Mais alors il m'a dit, mais il y a mon frère Hans Bauer, nous étions là ensemble là-bas. Il disait, mais il m'a dit alors, si j'avais su cela, je n'aurais pas dû vous louer cette salle. Mais ce qu'il ne sait pas, Dieu le savait, c'est qu'à peu près 70 ou 80 personnes étaient venues pour la première fois à la réunion pour écouter la parole de Dieu justement à Vienne. Et si le nom de Albert Schweitz attire, qu'il puisse attirer certains écrivains, tant que les gens sont dans la salle, il y a un autre nom qui est à la première place, c'est le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes à Dieu reconnaissant pour tout. À Salzbourg, il y a eu une atmosphère merveilleuse, glorieuse, céleste. Et notre sœur qui est là de Vienne, elle m'a raconté qu'il y avait quelqu'un là-bas pendant la réunion qui m'interrompait et qui parlait pendant que je prêchais et qui voulait apporter, ou bien qui il voulait. Donc c'est une sœur. Je voulais cette fois-ci épargner les sœurs. Ce n'est pas un homme, c'était une sœur. Mais vous voyez, nous devons être sincères ici, particulièrement quand nous sommes assis devant, et ici, pardon, debout devant. C'était une sœur dans la réunion à Vienne. Mais elle n'a pas eu la possibilité de parler. Ils disent que la sœur a dit, elle était tellement touchée par la prédication qu'elle n'avait plus rien à dire. Alors qu'elle interrompait. Vous voyez, quand la parole de Dieu est prêchée avec véracité, alors il n'y a aucun homme qui peut encore avoir quelque chose à dire alors que tous puissent l'écouter. la recevoir dans leur cœur et remercier Dieu pour cela. Je ne dois pas oublier de dire ce que notre frère, bien-aimé frère, je crois le premier, il est venu de la Belgique avec son frère vers midi. Il était midi. Il est venu de la Belgique avec son fils, je crois. Il m'a salué, il m'a dit, j'ai une telle faim. Oh, j'ai faim. Et parce que c'était justement midi, j'ai commencé à penser à lui préparer, à lui faire préparer à manger, quoi. Mais lui voulait dire, j'ai faim de Dieu, de Jésus. Il a même dit, je suis venu pour rencontrer Dieu, le Dieu vivant. Mais bien aimé, ça c'est quelque chose de très merveilleux. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Et je pense que tous nous sommes venus pour rencontrer Dieu, expérimenter personnellement Dieu. Nous ne sommes pas venus pour écouter une prédication. Nous sommes venus pour avoir une rencontre réellement avec Dieu. Ce soir, nous avons le souper du Seigneur. Et ça, c'est le mieux adapté pour cela, pour prêcher la réconciliation, pour nous montrer la réconciliation qui a eu lieu avec Dieu et pour nous l'écrire dans nos cœurs ce que veut dire la rédemption et ce que Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait pour nous, à nous et par nous, par sa grâce. Il y aurait beaucoup de paroles qu'on pourrait lire, peut-être même qui devraient être lues, mais nous connaissons déjà la parole. Elle est écrite dans notre cœur, dans nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de lire tous des chapitres entiers pour dire à des croyants ce qui est écrit dans la Bible. Ils vivent avec Dieu, ils lisent la parole de Dieu, ils croient à la parole de Dieu, ils l'acceptent dans leur cœur, ils la reçoivent. C'est peut-être raison que nous pouvons nous abréger et peut-être lire simplement quelques écritures qui font référence à ces choses. Le premier dans Galates 6, le dernier chapitre de Galates, Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de paix, de Dieu, pardon. L'Israël de Dieu. Mes bien-aimés, ça, c'est une parole merveilleuse. Autrefois, déjà, il y avait eu la dispute entre la circoncision et l'incirconcision, ce qui doit être fait. Et ici, Paul place la croix et le crucifié au centre et dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est quelque chose, il s'agit de Jésus-Christ, le crucifié. Les uns se sont loués de ne pas être circoncis. Les autres se sont glorifiés d'être circoncis. Les autres se sont glorifiés de ne pas être circoncis. Et chacun pensait pour eux avoir quelque chose. Et Paul, un homme de Dieu, qui avait un appel particulier et avec cela une responsabilité, et pas seulement ça, mais il avait l'inspiration et la parole du Dieu Tout-Puissant pour les différents points et questions, donner la réponse correcte aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas seulement qu'une réponse soit donnée, mais que à des questions divines, une question divine soit donnée pour que tous puissent savoir où ils sont. Les questions concernant les choses de Dieu, la parole de Dieu, il faut que ce soit la réponse de Dieu. Et nous savons ce que Paul, par Ananias, en forme d'une prophétie, lors de sa conversion, vous savez ce que Ananias a dit à Paul lors de sa conversion. Il est écrit dans Actes des Apôtres, au chapitre 22. Nous savons ce que Paul a reçu d'Ananias comme parole. Actes des Apôtres 22, verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais et je pouvais le voir. En allemand. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, en allemand, à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre un appel de sa bouche, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Peut-être seulement jusqu'ici cette parole. Revenons à cette parole de Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Pour moi, comme moi je le suis du monde. Et ensuite, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Une nouvelle créature. Et là, nous pouvons aussi dans 2 Corinthiens 5 lire où Paul le dit au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de cet homme, il a ensuite dit, paix et miséricorde, Galates 6, verset 16, sur tous ceux. Donc la paix et la miséricorde viennent sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Tous ceux qui sont devenus une nouvelle création, qui vraiment sont nés de nouveau par la parole et par l'Esprit de Dieu, ils ont reçu la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Romains 5, verset 1, et partout où ils vont, où ils se tiennent, où ils passent, cette paix de Dieu, cette paix du Dieu de paix, par la miséricorde de Dieu qui est venue sur eux, les accompagne. Ceux qui font que produire des conflits partout ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau. Ils n'ont pas encore expérimenté l'œuvre de Dieu accomplie en Christ qui nous donne la paix, selon Ésaïe 53 aussi. Peut-être une parole connue de nous tous. D'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, mais maintenant, vous qui êtes en Jésus-Christ, en allemand, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et après avoir aboli la loi et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, après avoir aboli la loi et ses statuts par le don de son corps, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, transformé, changé, renouvelé, qui procure la paix en allemand. Avons-nous tous entendu et lu? Par la croix de Golgotha, l'inimitié, la lettre, l'acte qui nous condamnait, tout a été effacé, a été aboli, anéanti. Et d'un homme qui était éloigné de Dieu, il a été rendu un homme qui est rapproché de Dieu, qui est proche de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu, parce qu'il est transformé, changé, renouvelé. Et cet homme qui était quelqu'un qui produisait des conflits est devenu quelqu'un qui produit qui procure la paix en tant qu'un nouvel homme créé en Christ, transformé, changé, renouvelé. Ça, c'est le signe véritable d'une vraie conversion et d'une vraie nouvelle naissance authentique qu'un homme doit expérimenter avec Dieu. Ne voulons-nous pas ici souvent nous en sortir facilement? Comme frère Branham le dit dans un passage, que le diable, l'adversaire peut imiter chaque don. Oui, selon l'extérieur, comme ça, on peut faire comme si, n'est-ce pas, on planait sur les nuages et subitement maintenant, le visage devient bleu et parce qu'on perd le contrôle de soi et qu'on se met en colère et il n'y a plus de traces de la paix, du Dieu de paix qu'on aurait reçu. Donc, pas planer sur les nuages, mais se tenir sur le sol de la victoire de Golgotha, là où notre réconciliation et notre rédemption a eu lieu. Sous la croix, nous devons prier jusqu'à ce que nous ayons expérimenté Dieu et que nous soyons devenus une nouvelle créature. Cela n'a pas lieu de l'extérieur. De l'extérieur, nous pouvons faire beaucoup de nouvelles choses, changer notre conduite, recevoir des nouveaux enseignements, etc. Non, non, cela ne servira à rien. Cela ne servira... Non, il a dit, cela ne suffira pas. Il faut que cela ait lieu de notre intérieur, la nouvelle naissance. Donc, ayant anéanti par sa chair la loi, il relit Éphésiens 2, verset 14b, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, transformé, qui procure la paix. Mais mes frères et sœurs, posons la question, est-ce que Dieu, toi et moi, nous a fait devenir cette nouvel homme, ce qui procure la paix, qui a la paix avec Dieu et qui peut la procurer, qui dans toutes ses voies procure la paix, qui avec toutes ses paroles procure la paix, avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait procure la paix par ses paroles, par sa marche, par ses actions. Comme il est dit, tant que cela dépend de nous, ayez la paix avec tous les hommes. Si tous nous en veulent, on ne peut pas changer les choses. Mais nous avons la grâce d'appartenir à ceux dans le cœur desquels la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite. La paix de Dieu, du Dieu de paix. Et alors nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Par sa grâce, il y a encore une parole dans Philippiens qui aussi s'ajuste bien à cela. Ici, il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Oui, peut-être déjà verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, ou même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, veut réellement. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, pas est Seigneur, mais le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lui, il s'est abaissé. Il est devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est ainsi que Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais bien aimé, avec la croix et avec d'être crucifié avec lui, c'est là que notre chemin d'obéissance commence avec Dieu. Notre crucifixion avec lui, c'est là que notre chemin commence. Et vous savez, là où notre chemin cesse, c'est là que le chemin de Dieu commence. La volonté de Dieu commence là où notre propre volonté n'existe plus. Le chemin de Dieu commence là où nous avons arrêté nos propres chemins, où nous avons arrêté notre propre volonté, nos propres programmes. Nous sommes arrivés à la fin de. C'est là que Dieu peut commencer, lui, à agir, à marcher avec nous. Et dans la foi, nous pouvons saisir ces choses que nous devenons une partie, sommes devenus une partie du programme de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons et nous allons, avec l'aide de Dieu, fêter le souper. Notre Seigneur a le témoignage de ses souffrances, de sa mort et de son sang répandu a été laissé par notre Seigneur comme un héritage à l'Église. Et nous ne pouvons pas faire autre chose que de penser ici à Exode chapitre 12, alors que là-bas, le Seigneur, n'est-ce pas, avait fait sortir le peuple d'Israël de la captivité. Vous savez ce qui s'est passé? Que les premiers fléaux, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, jusqu'au dixième fléau. Et rien ne s'est passé malgré tout. Par tous ces miracles et par tous ces signes et prodiges, le cœur de Pharaon s'est toujours plus endurci. Mais ensuite vint l'ordre de Dieu d'immoler l'agneau. Et avant que l'agneau pouvait être immolé, tout devait s'habiller, devait se revêtir, devait porter leurs souliers et être prêt à sortir. Mais bien-aimés, si aujourd'hui nous fêtons le souper, alors ce n'est pas comme ça sans être préparé, où chacun veut rester là où il est et comme il est. Comme c'est écrit dans Exode 12, verset 11, nous voulons avoir le courage de saigner nos reins et de mettre nos souliers. Et nous devons dire, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis. Nous sommes aussi prêts à sortir. Au moment où l'agneau fut immolé, il n'y a plus de retour en arrière et de réflexion et d'autres signes ou bien d'autres miracles. Et d'autres prodiges, il n'y avait que l'exode, la sortie. Mais bien aimé, alors que Christ a effectué et faisait effectuer son ministère sur terre, beaucoup ont expérimenté le pardon et la guérison. Et la foule l'ont suivi. Mais quand sur la croix à Golgotha, le sang a coulé, s'est répandu, et alors qu'il a dit, c'est accompli. Alors il ne s'agissait pas seulement de quelques-uns ici et de quelques autres là-bas qui suivaient le Seigneur, mais il s'agissait de toute l'humanité dans tous les endroits, dans tous les pays, Sur la croix à Golgotha, il s'agissait d'être prêt à mourir avec le Seigneur, car le sacrifice a été apporté pour tous ceux qui sont prêts à mourir avec le Seigneur et sortir avec lui. Le sacrifice a été apporté à Golgotha, laissant complètement le... Mais il faut qu'en nous, il y ait cette disposition à se tenir prêt à abandonner l'Égypte, à sortir avec le Seigneur pour que le sang du sacrifice ne soit pas répandu en vain. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, d'être prêt à sortir, à mourir avec le Seigneur, à sortir avec lui, laissant complètement le monde et l'esprit du monde derrière nous et suivre notre Seigneur. Pas seulement fêter le souper et dire, oui Seigneur, je me rappelle, je prends le souper en mémoire à ta mort. Non, avant que la Pâque soit immolée, il fallait qu'il s'habille, même avec le bâton à la main. Et il devait manger la Pâque avec hâte. Parce que c'était un passage en épargnant du Seigneur. Et l'ange de destruction a mis à mort tous ceux qui n'étaient pas sous le couvercle du sang par le signe visible en tant que preuve de la mort. Mais bien sûr, ça signifie encore Golgotha aujourd'hui pour l'église du Nouveau Testament. Nous devons être prêts à sortir avec le Seigneur, à abandonner le monde derrière nous avec tout ce qui appartient au monde et l'esprit du monde et suivre notre Seigneur. Si nous le faisons ainsi, alors Dieu va nous bénir. Alors nous pourrons nous tenir arrivés devant une mer rouge et le Seigneur va la diviser. Alors nous pourrons être dans le désert, arrivés dans le désert et le Seigneur va accorder de l'eau du rocher et de la manne du ciel, comme une pluie. Golgotha a une plus grande signification que nous pourrions la comprendre aujourd'hui comme celle de l'Exode, dans Exode 12, que le Saint-Esprit puisse nous le révéler. D'être prêt à mourir avec le Seigneur et sortir avec lui. Cela doit être prêt. Cela doit être comme en nous. De laisser l'Égypte derrière nous et de ne plus regardez en arrière. Plus tard, nous lisons du peuple d'Israël qu'ils ont regardé en arrière. Ils ont regretté les oignons de l'Égypte et le Seigneur ne leur a pas pardonné ça. Ils sont morts dans les déserts parce que ils n'ont pas fait confiance à Dieu et n'ont pas cru sa parole. Mais bien-aimés, l'œuvre de la rédemption est une œuvre précieuse, une œuvre merveilleuse, une œuvre sainte de Dieu pour l'homme, pour l'humanité déchue. Une offre adressée à tous ceux qui veulent l'accepter. Mais bien-aimés, que aujourd'hui, ce soir, nous puissions le dire, Dieu ne connaît pas d'église avec des inscrits et des adhérents et ou bien des membres. Dieu connaît seulement un troupeau racheté par le sang qui se tiendra devant le trône de l'agneau. Et à cette troupe des vainqueurs, des rachetés, nous voulons appartenir, quoi que ça nous coûte. Ça, c'est l'objectif de Golgotha, le sens de l'œuvre accomplie à Golgotha, d'appartenir à cette troupe. Bien-aimés, mes frères et sœurs, ne regardons plus en arrière, sinon nous serons comme un pilier de sel et nous ne serons pas consommables. Regardons, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Si aujourd'hui, nous prenons part au pain et au vin, et donc au corps et au sang, et pensant au corps et au sang de Jésus, nous voulons dans notre cœur dire, Seigneur, je suis prêt à sortir avec toi. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à porter ton opprobre. Tu es venu à nous. Et tu as payé le prix. Moi, je suis prêt à te suivre. Et j'accepte. Je prends part au souper qui représente ta mort, ta réconciliation, ton sang répandu et ma résurrection. Je reconnais que tout cela a eu lieu pour moi. Et je te remercie pour cela. Acceptons aujourd'hui. Prenons part aujourd'hui au souper. Dans cette disposition de notre cœur et cette conviction, comme un cantique le dit, jamais plus, jamais plus regarder en arrière, jamais plus retourner en arrière. Pour nous, il n'y a pas de retour en arrière. Où devons-nous aller? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Dieu nous a donné un plein salut en Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa grâce. Est-ce que tu veux aujourd'hui l'accepter? Alors, lève-toi, Saint-Terrain, à rencontrer ton Dieu et sois prêt dans ton cœur à vraiment le suivre et à ne pas apporter avec toi l'esprit du monde et l'Égypte, mais à laisser tout derrière toi. Que le Seigneur puisse bénir sa sainte et précieuse parole en nous tous, par sa grâce. Seulement encore cela, encore, que cela soit encore permis en ce qui concerne le lavage des pieds. En cet endroit, nous avons reconnu que chaque parole de Dieu est oui et amen. Nous avons compris qu'il n'y a personne sur terre qui a le droit d'interpréter la parole de Dieu et d'annuler la parole de Dieu en l'interprétant. Prenez vos décisions, mais prenez-la selon la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Je lis dans Jean 13, pour que vous puissiez savoir que c'est vraiment écrit ici, ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire comme ça de nous-mêmes. Moi, dans ma vie, je ne l'aurais jamais fait. Ça, je vous le promets, je ne l'aurais jamais fait. Mais ici, c'est écrit. Et faisons attention à ne pas annuler la parole de Dieu par nos interprétations. Jean 13, verset 4, il est écrit la chose suivante. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un lit, un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi Seigneur, tu me laves les pieds. Tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce que j'en peux? Est-ce que je suis responsable de ce que notre Seigneur a dit? Ou bien est-ce que j'ai à mettre en pratique ce qu'il a ordonné? Mais bien aimé, nous sommes simplement à la fin des jours, arrivés à la fin des jours, et nous voulons, tant que cela dépend de nous, ne pas interpréter une seule écriture. Le temps des interprétations est passé pour l'Église. Durant plusieurs années, j'ai écouté plein d'interprétations sur Jean 13. On s'est moqué même de ce chapitre. Ils se sont moqués de ce chapitre. Ils ont dit aujourd'hui, nous allons nous cirer les souliers à l'un à l'autre et ce sera... Ou bien alors on se lave la tête comme c'est écrit ici. Non, ce n'est pas possible. La parole de Dieu est sainte. Et elle doit être mise en pratique telle qu'elle nous a été ordonnée dans la Bible, noir sur blanc. Et je vous dis tous, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui n'a pas encore la révélation, vraiment une révélation de l'Esprit de Dieu dans son cœur, ne vous sentez pas obligé de le faire. Alors, donc, ça voudra dire que la prochaine fois, vous pourrez le faire. Ne faites rien si ce n'est que vous le faites avec conviction pour faire la volonté de Dieu. Je sais de moi-même, aussi d'autres, on a besoin parfois un peu de temps pour réfléchir. Pas chacun peut, comme ça, tout de suite comprendre tout et aussi peut-être même prendre part à tout. Quoique nous ne devrions pas comme ça laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Mais je dis quand même, si quelqu'un ne sent pas dans son cœur, ne voit pas cela comme ça dans son cœur, et que ce n'est pas de tout son cœur, de plein gré qui le fait, ne vous inquiétez pas. Donc, ça voudra donc laisser, et ne vous sentez pas obligé, que personne ne se sente obligé de faire quelque chose. Et sans conviction, ce n'est pas bien. Sentez-vous libre. Je pense que Dieu va nous bénir tous. Il nous aidera à comprendre et nous accordera sa grâce et sera avec nous tous. Aujourd'hui, ici à cet endroit, nous pouvons avoir un souper avec notre Seigneur. Nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu, la victoire de Golgotha et tout ce qui appartient à cela. Aujourd'hui, en cet endroit, nous pouvons l'expérimenter. Nous voulons être prêts de tout notre cœur à suivre le Seigneur, à dire Seigneur, Toi, tu as été prêt à donner toute ta vie pour moi dans la mort. Moi, je suis prêt à te donner toute ma vie, à te consacrer toute ma vie, à me mettre entièrement à ta disposition. Prends-moi, utilise-moi comme tu le veux. Fais de moi une bénédiction pour d'autres. Et Dieu va le faire par sa grâce dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout nouveau. Le sang de l'agneau me purifie et transforme tout et rend toutes choses nouvelles. Dans tout le chemin, Jésus me fortifie. Louange, reconnaissance. Alléluia. C'est mon chant, mon cantique. Je chante à Jésus toute ma vie, car Il a répondu aux besoins de mon cœur. Honneur soit au Seigneur. Tout lui est, tout est mis à sa disposition ici. Louez et reconnaissez et remerciez. Car il est le roi. Louez, louange, gloire et adoration. Alléluia. C'est mon cantique. Je le chante toute ma vie à Jésus. Car il a répondu aux besoins de mon cœur. Honneur soit au Seigneur. Il m'accorde la force et me fortifie en tout temps. Honneur et gloire soit au Seigneur. Il ne m'a jamais délaissé et abandonné. Mais remercier et louer soit le Seigneur. Quelle grâce. Alléluia. C'est mon cantique pour toute ma vie, dans toute ma vie. Toute ma vie, je loue et je remercie le Seigneur Jésus, car il a répondu aux besoins de mon cœur. Alléluia, c'est mon cantique. Je loue à Jésus, je loue Jésus, car il a exaucé les besoins de mon cœur. Père Céleste, nous te remercions encore une fois ensemble pour ce soir, pour cette heure, pour tout Seigneur, ce que nous avons pu faire en ton nom ici. C'est une bénédiction, que cela reste une bénédiction pour nous et tu as fait de grandes choses à nous. Nous te sommes tellement reconnaissants et nous savons que tu nous conduis dans tous nos chemins de manière merveilleuse, même si parfois nous ne comprenons pas. Mais à la fin, nous allons voir que tout était bien et bon. Loué et exalté soit ton nom. Seigneur, que tu puisses être avec nous. Même si maintenant, nous allons nous reposer. Que tu puisses, Seigneur, détendre tes bras, tes mains protectrices sur nous. Et être avec nous. Et demain, nous permettre de nous retrouver encore ici dans la bénédiction. Ça, c'est nos prières. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. À toi, l'agneau. Amen. Amen. Amen.